On va à présent parler d'une tendance forte, celle de l'audio. L'audio est de plus en plus présent dans la stratégie de communication des entreprises, des marques. Et pour cela, eh bien, Éléonore Vigneron, la fondatrice du podcast Rayonnante, m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour Éléonore.
Bonjour Janine.
Vous avez donc fondé le podcast Rayonnante. C'est un concept simple, si je puis dire, faire parler des personnes inspirantes de Nantes ou la région. À vos côtés se trouve Jordi Soudé. Vous êtes journaliste, podcasteur et créateur de Médiateur. Vous imaginez et concevez des contenus éditoriaux, que ce soit écrit ou audio, donc ça va de la newsletter au podcast. Et vous nous direz comment gagner en contenu, comment gagner en notoriété, je veux dire, grâce notamment au podcast. Bonjour Jordi.
Bonjour Géraldine, bonjour à tous.
Eh bien, on va commencer d'abord par vous. D'ailleurs, Jordi, est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux parce que le podcast s'inscrit largement dans la stratégie de communication pour une entreprise, il cesse de se développer. Mais comment expliquer cette tendance? Comment se structure le marché?
Alors, c'est un vaste sujet, il y aurait beaucoup de choses à dire. Pour faire simple, je vais faire un petit parallèle avec la vidéo, parce qu'ici, on est un peu dans l'antre de la vidéo avec M-Stream qui est là et qui a participé aussi au développement de la vidéo depuis une vingtaine d'années. On peut dire qu'aujourd'hui, le podcast est arrivé à son développement comme la vidéo est arrivée il y a une quinzaine d'années, où tout le monde voulait faire produire sa vidéo. Et avec un marché aujourd'hui qui est hyper structuré sur la vidéo, avec des prestataires, avec des sociétés de production, avec des médias, etc. Et aujourd'hui, je pense que le podcast en est presque arrivé à cette maturité. Il y a encore, je pense, quelques années et peut-être aussi... Alors là, je vais dire du mal de la vidéo, mais ce sera la seule fois. Peut-être aussi en réflexe face à peut-être une saturation des écrans. Et pour reposer nos yeux un petit peu, on s'est dit, tiens, on va peut-être faire un peu plus de son, un peu plus d'écoute. Et je pense que c'est aussi une raison, mais c'est complémentaire à la vidéo, je dirais. Et aujourd'hui, il y a un marché, un vrai marché qui est en train de se structurer avec, alors je ne vais pas tout détailler, mais on a déjà des sociétés, des studios de création qui sont pour les plus connus à Paris, Binge Audio, Louis Media, Nouvelles Écoutes, donc qui créent du podcast natif, des diffuseurs, des hébergeurs. Alors en hébergement, il y a un Français qui est très bien, qui s'appelle Ocha, et qui permet à la fois d'héberger le podcast, d'en faire l'identité visuelle, le diffuser sur l'ensemble des plateformes d'écoute, etc. Donc c'est vraiment une plateforme marketing avec des analytics, avec beaucoup de choses. Et évidemment, on a aujourd'hui des plateformes d'écoute qui sont nées avec la musique et qui aujourd'hui, elles développent un portefeuille podcast qui est... assez énorme aujourd'hui, parce que c'est très simple aujourd'hui de diffuser justement ce média-là, et qui est encore, alors par rapport à la musique, qui est sans doute très très minoritaire, mais qui se développe depuis quelques années, et je pense que dans 2-3 ans, on aura un marché comme ça qui sera à maturité sur l'offre podcast, et évidemment les médias traditionnels s'en sont emparés aussi, puisque on a vu par exemple il y a quelques années Ouest France, qui n'est pas du tout, pas du tout dans l'audio, qui est vraiment un média traditionnel papier et web aujourd'hui, et qui a racheté une structure qui s'appelle Saouti, qui est une spécialiste de la web radio. Et donc, qui aujourd'hui, Ouest France est un des plus gros faiseurs, je pense, de podcasts, avec le mur des podcasts, enfin dans les médias, hein, je reste mesuré là-dessus. Et donc on voit que les médias traditionnels aussi, c'est pareil pour Le Monde qui fait aussi des podcasts très intéressants, donc tous les médias traditionnels y sont venus à ce support. Je suis trop loin peut-être.
Non, des médias aussi, pas uniquement comme Radio France. Radio France fait des podcasts.
Alors la radio, évidemment.
On est la radio. Mais effectivement, des médias télé ou des médias presse.
Ce qui est original, ce qui est assez intéressant à regarder, c'est que la radio, elle fait du replay radio. Elle a beaucoup, enfin, c'est le podcast hein, d'aujourd'hui. C'était la radio, le replay radio. Mais le podcast natif a plutôt été préempté par des médias hors radio. j'ai enfin, c'est mon avis, parce qu'il y a une narration, parce qu'il y a une éditorialisation peut-être particulière. Et du coup, donc je parle de Ouest-France, je parle du Monde, enfin il y a plein d'exemples comme ça. Libé, qui a été un des premiers, je crois, à faire un podcast sur le jeu vidéo, je crois, il y a déjà 5-6 ans. Et du coup, voilà. C'est un support, un format qui est en train de se développer. Et comme tous les formats émergents, évidemment, tout le monde veut en faire. Comme la vidéo il y a 15 ans, tout le monde veut son... Enfin, tout le monde.
J'aimerais beaucoup bien de marques monde. Aussi veulent son podcast.
Voilà, les marques, les entreprises, les marques et les collectivités. Donc, comme tout média émergent, ça fait partie aujourd'hui du mix de contenu que proposent les entreprises.
On va voir dans un instant comment justement les entreprises peuvent s'emparer du podcast. Mais d'abord, écoutons un extrait de Rayonnante et vous allez nous expliquer pourquoi vous vous êtes lancé dans ce podcast. On écoute.
Hello à tous, je suis Éléonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast.
Éléonore, pourquoi avoir voulu monter et créer Rayonnante ?
Bon, alors déjà, pour rejoindre un peu ce que disait Jordi, Rayonnante, c'est un podcast natif. Donc, je suis complètement indépendante, je ne suis pas du tout journaliste de formation, je n'appartiens pas à une radio. Je suis issue du marketing et du monde de la communication. Et donc, j'ai décidé de créer ce podcast pour plusieurs raisons. Déjà, et c'est là où je rejoins un peu ce que tu disais aussi, Jordi, moi, c'est un média auquel je suis très, très accro, les podcasts, depuis plusieurs années. Pour plusieurs raisons, si tu me permets d'ajouter. Je trouve que la voix, l'audio, permet de véhiculer plein d'émotions. C'est vraiment un média dans lequel on peut véhiculer plein de messages, on peut s'instruire, s'informer, se divertir. C'est un média aussi qui s'adapte bien à nos modes de vie d'aujourd'hui. C'est un média qu'on peut consommer à tout moment de la journée, quand on est en train de faire son footing, quand on est en train de cuisiner, quand on est sur la route. Donc c'est vraiment des médias qui sont pour moi... très adapté à nos quotidiens et en ça j'y crois beaucoup et je crois beaucoup en l'avenir de ce média et d'ailleurs ça se démontre parce qu'il y a des études qui sont sorties sur le sujet, notamment une étude qui a été faite par Havas Media et le CSA qui a été présentée lors du dernier podcast festival à Paris qui montre qu'aujourd'hui il y a plus d'un tiers des Français qui écoutent des podcasts et la progression est énorme parce qu'en 2 ans elle est de plus de 11 points. Donc, c'est vraiment énorme et c'est vraiment un média d'avenir. Voilà,
Et c'est un média aussi de l'intime par rapport à la presse ou par rapport à la télévision. C'est vraiment, il y a la voix, il y a une sorte d'intimité qui se crée entre le journaliste et puis l'interviewé.
Ouais, tout à fait. C'est en cela que je vous rejoins là-dessus, c'est que c'est pour ça que je disais que c'était vraiment le média de l'émotion, quoi. C'est vraiment le média de l'intimité, de l'émotion. On va un cran plus loin, je pense, que sur des formats vidéo qui sont plus courts.
Et alors, pourquoi vous êtes venu au podcast ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer Rayonnante, où vous interviewez vous avez interviewé Dorothée Barthes et Colline, par exemple, Mazera, qui ont créé Joe. Vous avez également interviewé l'aventurier des mers, Armel Tripon, le boulanger et artisan Pierre-Antoine Arlot. Comment trouvez-vous vos invités ? Comment ça se passe ?
Alors déjà, j'ai créé Rayonnante en partant de deux constats. Le premier, c'était de me dire... je suis une ancienne Nantaise qui a travaillé à Paris pendant des années et je suis revenue à Nantes en 2019, donc juste avant le confinement. Et en revenant, j'ai été très agréablement surprise par le dynamisme de cette ville, que ce soit un dynamisme culturel, un dynamisme économique, etc. Et je n'avais pas le sentiment d'en prendre conscience quand je travaillais à Paris. Donc j'ai été vraiment agréablement surprise en arrivant ici. Je me disais, waouh, il y a plein de gens qui entreprennent dans des domaines hyper différents et il y a plein d'histoires qui sont très intéressantes à raconter. Et pour autant, il n'y avait rien qui existait sur le sujet, quoi. Donc voilà. Et puis ensuite, il y a eu le confinement, le premier confinement qui est arrivé. Et en discutant avec mon mari, on se disait, l'avantage de ce confinement, c'est que du coup, les gens vont beaucoup plus s'intéresser à ce qui se passe autour de chez eux. Et moi, j'aime bien prendre cet exemple-là. typiquement le boulanger au bout de ma rue qui a une trentaine d'années, qui s'est installé avec sa femme, qui est en reconversion professionnelle. Et je me disais, mais à quel moment tu te dis à 30 ans, je vais reprendre une boulangerie, je vais faire du pain comme ça, je vais travailler de cette manière-là, etc. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas finalement donner la parole à ces gens-là qui ont des histoires tout aussi intéressantes les unes que les autres à raconter, et puis montrer comment Nantes les aide à créer leur entreprise, les aide à se développer, comment eux aussi contribuent à faire rayonner Nantes à travers la France, à travers le monde entier. Le podcast, il est écouté dans le monde entier aujourd'hui, donc, l'idée, c'est vraiment de montrer ça, quoi.
Quel est votre modèle économique, Éléonore, du coup ?
Bah, c'est un peu le sujet, comme c'est un média assez nouveau, le podcast. C'est un média qui aujourd'hui, le podcast il s'écoute sur toutes les plateformes d'hébergement. C'est un podcast qui est gratuit pour les auditeurs. Pour moi, évidemment, c'est un coût. Entre les frais de montage, les frais de diffusion, la charge de travail aussi sur toute la préparation, l'enregistrement, etc. En gros, pour être tout à fait honnête et transparente, un épisode de podcast, ça coûte à peu près 250 € à produire. Mon idée est plus de trouver un modèle économique en deux temps. Soit de passer par du sponsoring, comme un média classique, en fait, où un annonceur achète de la publicité sur le podcast. Donc, c'est une publicité, c'est un peu différent parce que c'est une publicité que je crée moi, que j'enregistre moi. Donc, je prends la parole pour cette marque, pour parler de son service, pour parler de son produit, etc. En pré-roll, donc en amont de l'épisode. Et du coup, la marque ou l'annonceur achète un certain nombre d'épisodes. Donc, ça se passe comme ça. L'autre aspect aussi que je facture, c'est aujourd'hui les invités qui passent dans le podcast payent l'épisode de Rayonnante.
D'accord, ok. Voilà. Pour que effectivement vous puissiez rentrer dans vos frais. Jordi, vous créez aussi des podcasts, des contenus éditoriaux, newsletters ou audio. Pourquoi et comment les marques s'en emparent ?
Alors les marques, je dirais plus globalement l'entreprise, enfin les organisations, elles s'en emparent de différentes manières. Alors quand on parle de podcast, on parle de, effectivement, on a cette idée de série, ce que tu fais toi d'ailleurs, hein, une série très thématique, etc. Mais je crois qu'il y a plein de formats, plein de formes différentes. On y reviendra peut-être, mais donc faut pas forcément envisager quand on est une marque de tout de suite passer à quelque chose qui va être une série de 20 épisodes, investir beaucoup de temps, beaucoup de moyens pour ça. Donc on peut passer par d'autres formats. Donc après, les typologies de... Moi, ce que j'observe dans ceux qui s'en emparent vraiment, les secteurs qui sont très à la pointe, c'est notamment les entreprises de la tech, du digital, du marketing, qui aujourd'hui... comme elles sont très digitalisées, le podcast aujourd'hui fait partie de leur armada, on va dire, de communication. Moi, je pense déjà à Nantes, on a un beau vivier d'entreprises. Je pense à Intuiti, je pense à Guest Suite, je pense à iAdvise ou eAdvise, je ne sais plus comment.
iAdvise
qui, elles, créent leur propre plateforme média aujourd'hui, avec un blog, avec de la vidéo, avec des tutoriels, avec beaucoup de choses pour faire leur promotion, pour mettre en avant leurs clients, etc. Et le podcast, aujourd'hui, c'est forcément dans cette plateforme média. Il n'y a pas aujourd'hui une plateforme média d'une start-up qui se crée sans cet aspect-là. Donc ça veut dire que c'est... Alors pour ce monde du digital, quand même, qui est assez spécial... C'est-à-dire pour ce monde-là, c'est vraiment quelque chose qui est ancré et qu'on ne peut plus passer à côté. Après, pour les marques, on va dire, plus grand public, c'est assez différent. Là, il faut vraiment une appétence, je pense, d'un dirigeant, d'un responsable com, qui a déjà un intérêt pour la chose, je pense, et qui va créer, qui va souvent passer par une société de création, un studio de création. Je pense aux Parisiens que j'ai nommés tout à l'heure, qui ont créé du coup, à côté de leur podcast natif, qui sont financés par la pub, un studio de création pour des podcasts d'entreprise. Donc il y a une offre aujourd'hui pour les podcasts de marque. Alors il y en a plein, on ne va pas citer. Je crois, le secteur de la santé marche très bien sur ces sujets-là. Moi, il y a peu de temps, j'ai écouté un truc qui m'a beaucoup plu. Alors, c'est un peu un ovni. Ça s'appelle. Alors, si vous voulez, moi, je partage beaucoup sur mon compte LinkedIn, justement, des écoutes, des choses comme ça. Et ça s'appelle Sofa. Et c'est créé par Ling Rosé, qui est une marque emblématique de canapés. Enfin, je sais pas si on en a tous, je pense, chez nos parents, des canapés qui sont à ras du sol, là, etc. Et c'est un podcast en 6 épisodes qui est présent sur leur site web. Et qui est fait vraiment en mode immersif, documentaire, avec un journaliste qui suit les dirigeants dans l'usine, l'artisan, etc. Il y a un épisode qui est très drôle, c'est tonton Bertrand, ou tonton, bref, c'est un peu le patriarche de la boîte, et où la journaliste va au resto avec lui et il raconte son enfance, son machin. Donc ça permet, alors là c'est un peu un ovni dans les podcasts de marque, mais il y a un vrai intérêt, il y a une vraie narration. Et alors, s'il fallait faire un podcast de marque, je pense qu'il faudrait aller sur ces projets-là. Mais ça demande effectivement de l'investissement. Et puis aussi, il y a aussi les territoires aujourd'hui, les collectivités qui s'en emparent. Alors Nantes, je ne sais plus le nom du podcast nantais, fait par la Nantes Métropole. Enfin, il y a...
Ça ne s'appelle pas Inspirante, non ?
Nantes inspirante, peut-être c'est ça. Donc par exemple, il y a beaucoup d'exemples. Et aujourd'hui, il y a aussi cette idée que les territoires peuvent gagner en attractivité en développant du podcast. Et alors j'ai quelques exemples, mais c'est pas encore très ancré. En parallèle de la vie, de la belle vidéo qui va montrer les paysages, les enfants qui font du vélo, etc. Enfin, c'est un peu tout le temps la même chose en termes de vidéo d'attractivité. Et il y a quelques exemples. La région Auvergne-Rhône-Alpes qui fait un podcast qui s'appelle Renaître ici et qui suit du coup des ambassadeurs d'une ville. Donc pareil, mode immersif, on va voir les gens, ils nous emmènent dans leur quartier, etc. pour donner envie tout simplement. Tiens, j'ai entendu un podcast sur Saint-Étienne, Grenoble, machin. Il parlait de cet endroit qui a l'air très sympa. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Et il y a aussi... j'ai oublié. Il y a d'autres exemples.
Vous allez revenir là-dessus. On va noter nos Renaître, par exemple.
Mais voilà, ça peut être aussi une piste de développement pour l'attractivité des territoires.
Mais quand on parle d'audio, on imagine forcément, Jordi, le podcast. Mais en fait, l'audio, ce n'est pas uniquement le podcast. Principalement.
Alors, ça peut être décliné. On parle de podcast pour un peu englober tout ce qui existe, mais effectivement, l'audio, c'est pas forcément une série de 10 épisodes très cadrés, etc. Et on peut l'utiliser finalement dans plein de stratégies de com très différentes. Alors, moi, par exemple, sur le prochain Web Today, j'ai proposé de mettre en place un dispositif
qui a lieu début juin, premier 2 et 3 juin,
en 10 jours. Par exemple, d'être aussi dans les coulisses du Web Today avec un micro et d'interviewer les partenaires, etc., des formats très courts, et de publier dans la journée des capsules du coup, qui sont transformées en vidéo parce qu'on voit la tête, etc., de la personne interviewée. Et du coup, l'idée, c'est de faire vivre un peu l'événement, d'avoir aussi une trace, etc. Et voilà, l'idée, c'est de faire peut-être, je ne sais pas, une trentaine de capsules audio en 3 jours. Je ne sais pas dans quel état je vais finir, mais voilà.
Rendez-vous le 4 juin, c'est ça.
Donc l'événementiel, on peut l'envisager aussi, pourquoi pas, dans les relations presse, pourquoi pas faire des communiqués de presse audio, où on écoute un chef d'entreprise qui raconte un peu comment il se développe aujourd'hui et de l'intégrer dans un article de presse. Enfin, il y a plein d'idées comme ça qu'on peut mettre en œuvre assez facilement.
Alors, on a parlé un peu de la forme, on va dire, des contenus et du fond, mais concrètement, Éléonore, si j'ai une idée, si j'ai envie de monter un podcast, comment je fais, sur quelle plateforme je vais, quel matériel utiliser, parce qu'on a vu à travers Jordi différents exemples, il en existe beaucoup. Comment on fait, concrètement ?
Bon, alors, l'autre atout aussi du podcast, c'est que c'est un média qui est, mine de rien, très accessible en termes de coût par rapport à la vidéo, je compare. Hein. Donc, pour trouver du matériel aujourd'hui, il y a, vous pouvez regarder d'ailleurs sur des vidéos YouTube, il y a plein de podcasteurs qui promeut le matériel utilisé. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'utiliser un enregistreur type un Zoom, le Zoom H4N Pro ou le Zoom H5. C'est des,
je confirme.
Ouais. C'est vraiment bien. En fait, la qualité audio est vraiment la plus optimale pour l'enregistrement. C'est vraiment le top. L'idéal, c'est d'avoir ce type de micro. Si vous êtes avec un invité, si vous êtes sous un format d'interview, après sous un format narration, libre au podcasteur de choisir le micro qu'il veut. Et puis ensuite, il faut héberger donc son podcast sur des plateformes de diffusion. Il en existe beaucoup aujourd'hui. Le paysage est quand même assez disparate, je trouve. Il y en a quand même deux qui émergent. Tu me confirmes, hein, Jordi. Moi, j'utilise la plateforme Ocha, qui est un acteur français. Et puis, il y a son concurrent qui est Acast. Voilà, qui propose un peu les mêmes types de formules. C'est des formules sur abonnement, un peu comme un abonnement Spotify ou un abonnement Deezer. Et eux, en fait, vous hébergez votre podcast sur ces plateformes-là et eux se chargent de diffuser votre contenu sur toutes les autres plateformes de podcast.
Ouais. Dernier mot, puis après, si dans le public ou de chez vous, vous avez des questions à poser à Éléonore Vigneron ou Jordi Soudé, n'hésitez pas. C'est un événement hybride, donc que les invités en présentiel ou en distanciel posent leurs questions. Ils se feront un plaisir d'y répondre dans une prochaine minute.
Je voulais juste confirmer, effectivement, moi j'utilise Ocha aussi, qui est une super solution. Et qui est vraiment une solution marketing. C'est pas seulement un hébergeur de podcast. Il permet vraiment de faire des teasers vidéo, du sous-titrage. Ils ont mis en place quand même une solution qui permet de piloter du podcast quasiment sans autre support. C'est-à-dire que à la limite, on n'a même pas besoin d'un site web, même pas besoin de réseaux sociaux. Enfin, pour la notoriété, il en faut. Mais voilà, ça prend en charge l'ensemble des composantes de ce qu'on peut faire avec un podcast.
Merci pour ces précisions. Alors, est-ce que justement, vous avez des questions, vous avez envie de réagir à ce que viennent de nous dire Éléonore ou Jordi? Aucune question? Allez-y, madame.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter comme ça?
Charlotte Tirage, je suis chargée des admissions chez Subdecom, mais très intéressée par ce genre de sujet. Je me demandais comment vous préparez vos podcasts. C'est quoi finalement la méthodologie que vous allez avoir pour anticiper l'arrivée d'un invité?
Allez-y.
Alors, c'est beaucoup de recherches en amont. Beaucoup de recherches sur Internet, sur tous les médias qui sont disponibles, beaucoup d'écoutes de podcasts aussi, sur le sujet, sur la thématique qui va être abordée par mon invité. Et je contacte toujours l'invité en amont, et j'ai toujours un call avec lui en amont, ou alors on échange de visu sur lui. En fait, j'essaie pendant ces moments-là, de briser un peu la glace entre nous, pour que le jour J, le jour de l'enregistrement, en fait, l'échange soit le plus informel possible, que la personne arrive à se livrer, à aller dans le fond des choses, en passant la barrière du micro, la barrière de l'enregistreur et voilà, qu'elle soit vraiment dans le fond et dans le vrai, quoi.
Alors, moi, je suis pas du tout comme ça.
Je pense que je suis très scolaire.
En fait, ça dépend du podcast, hein, si c'est un podcast personnel ou si c'est une demande client. Mais moi, j'essaye d'avoir un minimum de contact avant l'enregistrement. Pour justement avoir vraiment la surprise de la rencontre. C'est
le contraire.
Voilà, c'est un peu le contraire. Évidemment, je le prépare des questions, une trame, etc. C'est très cadré. Mais sur la personne qui sera en face de moi, je ne veux pas non plus trop en savoir parce que j'ai envie de la découvrir. On parlait du média de l'intime, de la confiance qui s'installe entre l'intervieweur et l'interviewé. Moi, j'ai envie d'apprendre à la connaître au fur et à mesure. Alors, ça dépend, si c'est des gens déjà un peu connus, c'est tout à fait différent. Mais quand c'est des gens qui sont, par exemple, si c'est un but de communication interne où on va interviewer des salariés, etc., moi, j'aime bien découvrir la personne et du coup, je pousse aussi les questions en fonction de ce qu'on me dit et j'essaye de, avec des objectifs de com évidemment qui sont sous-jacents, mais donc j'ai un petit peu, c'est un petit peu différent, mais les deux sont très bien.
Être surpris un voilà. peu plus, d'accord. Et vous, au contraire, j'imagine, de près creuser...
Ça ne m'empêche pas d'être peut-être... surprise, parce qu'on se laisse aussi j'imagine. Un peu porter par la discussion. Et c'est vrai que l'invité, du coup, se révèle. Puis je suis sur des temps longs, quand même. Je suis sur
oui,
des
vos podcasts.
45 minutes, 50 minutes, donc en moyenne. Donc on a le temps d'aller vraiment dans le fond des choses et de se laisser surprendre.
D'autres questions ? Tout a été clair. Éléonore, quels sont vos prochains invités ? Alors, si on va écouter qui, quel invité vous avez alors, interviewé ?
J'ai un épisode qui sort dimanche. Et alors, on va parler de consignes alimentaires en inox. Donc, j'ai interrogé l'entreprise, les startups Bernie, les deux fondateurs de cette startup, qui sont Claire Nijdam et Olivier de Kerimel.
Et qui sont nantais, j'imagine ?
Qui sont nantais.
Et vous, vos prochains projets, Jordi ? Donc le Web Today ?
Le Web Today, là, très bientôt. Et puis, si vous voulez suivre un petit peu ce que je raconte là, ce que je vous ai raconté très rapidement, sur mon compte LinkedIn, je partage beaucoup d'infos, d'écoutes ou de réflexions plus ou moins pertinentes sur le podcast. Mais donc, je partage beaucoup de choses, donc vous pouvez suivre mon compte.
Donc d'aller écouter, je vous invite à écouter Rayonnante et aussi d'autres podcasts.
J'ai un petit podcast personnel où j'interview des responsables comme marketing sur leur stratégie de contenu justement, qui s'appelle le podcast de Médiateur sur mon site ou aussi sur les réseaux.
D'accord. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Éléonore et merci Jordi.